Allez au-delà des limites sur Altitude FM avec Alexis du comité départemental handisport Haute-Garonne.
Bonjour à tous, Alexis du comité handisport. On se retrouve comme chaque mardi pour la chronique et comme vous le savez ce mois-ci, nous allons parler des droits des femmes et nous retrouvons donc Emma. Salut Emma.
Salut.
Tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va. Donc Emma, tu es titulaire d'un master sur les discriminations et le genre et tu vas nous parler aujourd'hui de la thématique de la troisième table ronde qui aura lieu ce soir à Ramonville. Je te laisse nous dire de quoi on va parler aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on va parler du rapport des femmes à la médecine. C'est un rapport qui est souvent complexe. Juste pour petit rappel, l'objectif, c'est pas d'incriminer individuellement les soignants, mais on va parler plutôt de dynamique systémique et plus spécifiquement des biais de genre en médecine, de leurs conséquences sur la santé et des rapports de pouvoir qui peuvent s'installer dans la relation de soins.
Donc Emma, que sont les biais de genre en médecine ?
Alors les biais de genre, c'est défini comme la récurrence d'un phénomène qui conduit à une égalité, une différenciation qui est liée au genre. Et du coup, dans le médical, ça se traduit par des représentations qui sont souvent inconscientes et qui influencent le diagnostic et la prise en charge. Donc concrètement, ça signifie que la santé des femmes est parfois moins prise au sérieux. Et du coup, ça a beaucoup de conséquences, notamment des retards de diagnostic, des erreurs médicales, des traitements inadaptés et même une surmortalité qui est évitable. On va prendre un exemple. Pour des douleurs abdominales, il y a des femmes qui se voient souvent une explication qui est hormonale ou psychologique, alors que les médecins n'ont pas conduit des investigations approfondies. Donc ça peut avoir comme résultat que certaines pathologies comme l'appendicite peuvent être diagnostiquées plus tardivement.
Est-ce que du coup, tu aurais des exemples de maladies mal diagnostiquées chez les femmes ?
Oui, alors par exemple, il y a les maladies cardiovasculaires qui illustrent parfaitement les biais de genre. On prend l'infarctus du myocarde, ça a longtemps été considéré comme une maladie d'homme et les essais cliniques étaient majoritairement réalisés sur des hommes, sauf qu'en fait les symptômes chez les femmes ils peuvent être différents. Elles peuvent ressentir une fatigue intense, de l'angoisse, des nausées et des douleurs atypiques plutôt qu'une douleur thoracique brutale. Et du coup cela ça a pour conséquence que les femmes vont être prises en charge plus tardivement, alors que 80% des accidents cardiovasculaires féminins pourraient être évités grâce à la prévention. On peut prendre un autre exemple frappant qui est l'endométriose. Elle touche une femme sur 10 et en fait c'est une inflammation chronique et l'endomètre va se développer en dehors de l'utérus dans cette maladie. Donc ça va provoquer divers symptômes, des douleurs pelviennes intenses, des nausées, des règles douloureuses, une fatigue chronique. Sauf qu'en fait en France le retard de diagnostic moyen pour l'endométriose il est d'environ 7 ans, ce qui est énorme. Et en fait ce retard de diagnostic il est lié au fait que la douleur menstruelle elle est souvent banalisée parce qu'on considère qu'avoir mal pendant ses règles c'est censé être normal. Donc ça a des conséquences lourdes sur la santé physique et mentale des personnes concernées. Et aujourd'hui, il n'existe toujours pas de traitement curatif pour l'endométriose.
Et du coup, on peut être amené à se poser la question de la parole des femmes. Est-ce qu'elle est finalement prise en compte ?
Alors, c'est une question qui est importante et les chiffres, ils sont parlants sur cette thématique. Donc il y a une enquête qui a été menée par Ipsos et la Fédération hospitalière de France, dans laquelle il y a 51% des femmes qui déclarent que leurs symptômes ont été déjà minimisés en raison de leur genre. Et il y a 42% des femmes qui disent que leurs douleurs ont été attribuées à des causes psychologiques ou hormonales sans examen approfondi, ce dont on parlait plus tôt. Et du coup, on peut parler parfois d'hystérisation. Et en fait, le concept d'hystérisation, c'est le fait de ramener un problème qui est physique à une fragilité psychique supposée. Et pourquoi ça arrive ? C'est parce qu'en fait, le corps masculin dans la médecine, il a souvent été considéré comme la norme. Et les essais cliniques, ils ont souvent été menés sur des hommes. Et il y a un reportage d'Arte qui parle de ça, qui le résume de cette manière, qui dit que le prototype médical, ça serait un homme de 1m95 pour 75 kg. Sauf que le métabolisme, le système hormonal ou la réponse aux médicaments, en fait, elle est différente en fonction des sexes. Donc si le standard est masculin, le corps féminin, en fait, il devient un écart à la norme. En plus, la médecine, ça repose sur un savoir qui est spécialisé, que les professionnels détiennent. Sauf que si la relation entre les soignants et les patients n'est pas bien construite et qu'il y a un déséquilibre qui se crée, le consentement peut être négligé, les décisions peuvent être imposées, la parole elle est interrompue. Donc ça pose de nombreuses problématiques. Et pour certaines femmes, ça peut aller jusqu'à des expériences qui sont vécues comme violentes. Donc c'est très important dès le début de poser les bases d'une bonne relation.
Et du côté des femmes en situation de handicap, on en est où par rapport à ces questions ?
Alors les femmes en situation de handicap, elles ont une problématique particulière. Elles se trouvent à l'intersection de deux discriminations, le sexisme et le validisme. Et historiquement, leur corps a été contrôlé, parfois stérilisé de force. Aujourd'hui encore, la sexualité des femmes en situation de handicap est souvent invisibilisée. Et l'accessibilité dans la médecine, c'est souvent un obstacle majeur, parce que les locaux ne sont pas toujours adaptés, le matériel n'est pas toujours approprié, la communication aussi n'est pas souvent accessible. Par exemple, on manque d'interprètes en langue des signes française. Et certaines peuvent même faire face à des refus de soins. Il y a le défenseur des droits qui a mené une étude et qui a recensé de nombreux témoignages qui évoquent, par exemple, le cas d'un enfant autiste à Lyon qui a eu des refus de soins de dizaines de cabinets. Ou alors des personnes en fauteuil roulant qui rapportent des refus de soins liés à l'inaccessibilité des lieux. Et ensuite, il y a les femmes avec des troubles psychiques qui rapportent aussi la minimisation de leurs symptômes. Donc il y a 69% d'entre elles qui déclarent que leurs symptômes ont été banalisés. Et pour les personnes en situation de handicap, il y a une grande vulnérabilité économique parce que les restes à charge sont souvent importants et les personnes en situation de handicap ont souvent des revenus plus faibles.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on ne se sent pas écouté ?
Alors, ça peut paraître bête dit comme ça, mais il faut oser parler. Et la Haute Autorité de la Santé qui encourage une relation de décision médicale partagée dans laquelle il y a un échange bilatéral d'informations, dans laquelle le patient et le soignant discutent des options et que le choix, en fait, doit être fait de manière commune. Donc le patient, il peut poser des questions, demander des explications, solliciter un second avis. Il existe aussi des ressources comme la ligne Santé Droit Info, dont je vais donner le numéro, c'est le 01 53 62 40 30. Et en cas de discrimination, il est possible de saisir le défenseur des droits. Ils ont d'ailleurs créé un dépliant qui s'appelle Agir contre les refus de soins, qui donne beaucoup plus d'informations, voire engager en fait une procédure en cas de refus de soins discriminatoire, parce que c'est interdit par la loi.
Quels sont les leviers d'action dans la médecine ?
Alors, le changement, il passe par plusieurs leviers. Premièrement, on peut former les professionnels aux biais implicites qu'ils peuvent avoir. Il serait aussi important d'intégrer la non-discrimination dans la formation initiale, développer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap et mettre en place des dispositifs de signalement clairs pour pouvoir mieux se diriger dans les lieux médicaux. Et ensuite, il serait important de généraliser les bonnes pratiques parce que dans certains centres hospitaliers universitaires, il y a déjà des bonnes pratiques qui sont mises en place. Et le défenseur des droits, il recommande une stratégie nationale de lutte contre les discriminations dans les soins avec des collectes de données, des formations et des sanctions surtout effectives. Donc, pour conclure, on peut dire que la santé, en fait, c'est pas du tout un milieu neutre. Elle est traversée par des normes sociales, des représentations et des rapports de pouvoir. Et donc, reconnaître les biais de genre en médecine, ça permet de mieux prendre en charge les patients et d'améliorer le système pour qu'il soit plus juste. Parce qu'en fait, l'accès à des soins adaptés et accessibles, c'est pas censé être un privilège, c'est un droit fondamental. Et donc, rendre visibles ces biais, c'est une première manière d'agir.
Merci Emma pour ce petit mot de fin et tes réponses à mes questions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre ce soir sur la table ronde pour avoir plus d'échanges et de débats sur cette thématique. Donc pour assister à cette table ronde, vous avez juste à vous inscrire via nos réseaux sociaux, donc sur Facebook ou Instagram Comité Handisport 31, ou alors nous contacter par téléphone pour vous inscrire au 06 63 56 89 83. Merci Emma pour cette chronique.
Merci à toi.
Et on se dit à la semaine prochaine pour la dernière thématique de notre quatrième table ronde.
À la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
Retrouvez-nous sur handisporthaute-garonne.org et les réseaux sociaux et dépassez vos limites.